C'est ça, alors nous sommes dimanche 5 mai, nous avons une journée de pleine conscience, nous sommes 50 personnes, non c'est pas vrai, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et de rester malgré le peu de nombre, mais ce n'est pas grave parce que notre but vraiment est d'apprendre à vivre en pleine conscience et que nous soyons nombreux ou peu nombreux, l'objectif est le même et notre désir est le même, c'est-à-dire comment est-ce que nous vivons nos journées et notre vie quotidienne en pleine conscience. Alors, une journée de pleine conscience se passe dans un local, dans un zendo, mais c'est seulement une petite partie de notre vie parce que nous vivons toute notre vie durant, nous avons des journées de pleine conscience. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer dans un zendo pour que ce soit une journée de pleine conscience. À la maison, nous nous asseyons, nous marchons, nous mangeons, nous travaillons, nous prenons soin de nous, nous prenons soin de nos relations. Et si nous ne connaissons pas la pratique de pleine conscience, nous ne savons pas comment nous le faisons. Nous sommes emportés par la vie. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la distraction. Et c'est ainsi que le stress nous prend. Le stress nous prend parce que nous ne sommes pas conscients, parce que nous sommes emportés par la vie. Lorsque nous découvrons la pratique de la pleine conscience, tout à coup, nous avons comme un phare, une lumière, quelque chose qui va nous aider à savoir ce que nous faisons, à savoir ce qui nous arrive, à ne pas être victime de notre vie, mais plutôt à prendre notre vie entre nos mains et à être souverain de notre vie. Même si nous sommes faillibles, même si nous avons de mauvais jours, c'est normal, nous sommes humains et nous aurons des faiblesses comme ça. Mais c'est ce que nous voulons pratiquer. Okay? Nous voulons être de plus en plus stables et souverains. Lorsque les mauvais jours arrivent, je mets entre guillemets, lorsque les fatigues arrivent, nous sommes conscients que nous sommes fatigués. Nous sommes conscients que nous sommes aujourd'hui un peu plus tristes. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui ça va moins. Et c'est ça la différence avec la vie qui n'est pas en pleine conscience. Lorsque nous ne connaissons pas la pratique de la pleine conscience, le moindre obstacle devient lourd. C'est très gros. Et on pense que ça dure très longtemps. Mais lorsque nous connaissons la pratique de la pleine conscience et lorsque nous sommes déterminés à la pratiquer, nous constatons que tout ce qui nous arrive, tout apparaît, dure un moment et disparaît. Fini. Impermanent. C'est impermanent. Et le fait de le savoir déjà allège notre quotidien. Juste ça. De savoir que aujourd'hui ça ne va pas, mais ça va passer. Donc c'est juste pour maintenant. Maintenant, ça va passer. Et ça va recommencer. Mais quand ça recommence, si nous faisions des courbes, au lieu que ce soit comme ça, des courbes prononcées, avec la pratique de la pleine conscience et avec notre vécu, nos pratiques de méditation, le fait que nous venions ici pratiquer avec des amis, que nous venions à des journées pour rencontrer des amis, parce qu'à la maison c'est plus difficile, que nous allions à des retraites, que nous conservions dans un milieu de pratique de pleine conscience, alors les courbes sont moins formées. C'est plus doux. Les hauts et les bas sont de petits hauts et de petits bas. Et nous apprenons à voir que nous réussissons à vaincre la notion du temps. C'est drôle à dire, mais Le passé, pour nous, semble loin, grand, très profond. Le futur, c'est inconnu, mais c'est quand même aussi une période de temps longue. L'instant présent est tout court. C'est rien. C'est entre le passé, entre le futur. Le temps de le dire, il n'est plus là. Mais lorsque nous avons cette pratique de pleine conscience, nous nous installons dans l'instant présent, c'est-à-dire que nous le vivons. C'est vraiment imagé, parce que ça n'a pas de mots pour le dire. Inspirer et expirer, et juste faire ça, c'est déjà être dans l'instant présent. Vous êtes plongé dans vos regrets du passé, et puis quelqu'un fait sonner une cloche, quelqu'un vous réveille, vous appelle. Ah, oh oui, j'étais en train de regretter, ou bien j'étais perdu dans mes pensées. Quand on dit j'étais perdu dans mes pensées, c'est comme si on est perdu dans le temps. On perd la notion du temps. Ou alors quand on est perdu dans le futur aussi, on perd la notion du temps. Mais aussitôt qu'on revient à maintenant, c'est la réalité, parce que c'est maintenant la réalité. Maintenant, ce n'est pas samedi. Tout à l'heure, lorsque nous étions ensemble, on s'est dit, oh, il n'y a personne, bon, on va annuler, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Mais l'instant présent continue pareil. Alors, la pratique de la pleine conscience continue pareil. Quelle importance qu'il y ait 50 ou 3 ou 10, c'est notre pratique de pleine conscience. Chen Hui, il est tout le temps dans les retraites et dans les discours, et une après l'autre, avion après avion, et maintenant c'est nous en français, dans quelques minutes il va le faire en anglais, et il se met facilement dans le bain des autres sanghas, parce que les sanghas, vous savez, c'est des communautés de pratique, elles sont un peu partout, et tout le monde veut essayer d'avoir une vie meilleure. C'est le mot. Alors pour cela, nous suivons les enseignements de Thich Nhat Hanh. Vous connaissez Thich Nhat Hanh ? Thich Nhat Hanh, nous suivons ses enseignements, qui lui nous transmet les enseignements du Bouddha. Et bon, nous sommes occidentaux, vous êtes vietnamienne, peut-être vous savez plus que nous, certainement. Mais pour nous qui avons découvert cela, c'était vraiment une belle découverte. Ah oui, Bouddha, il est juste, il est tolérant, il n'est pas de discrimination, il pratique l'amour, la compréhension, ça nous plaît. Et on veut faire cela, on veut suivre cela, sans toutefois abandonner notre religion. On n'abandonne pas nos religions, on reste qui on est. On garde notre héritage, l'héritage de nos parents. Mais on adopte la voie bouddhiste qui est complémentaire, c'est le iPhone peut-être, qui est avec ce que nous avons déjà appris. Maintenant, comme c'est nouveau pour nous, il se peut que nous le comprenions mal. Et oui, c'est très facile de mal comprendre. Par exemple, avant de connaître la pratique, je lisais beaucoup de livres sur le zen, sur toutes sortes de personnes. Et je commençais à lire le bouddhisme et le vide. Pour me mettre. Hein? Il y a mes deux. Hein? Je sais, mais. Parce que le son rentre dans mes oreilles après. Bon, je vais pas bouger. Je ne connaissais pas les notions de vide et tout ça. J'ai appris le vide ce matin lorsque nous avons lu le sutra de la Prajnaparamita. Vous l'avez entendu déjà ou c'est la première fois? Et vous? Et Diane, et vous êtes Marielle?
Oui.
Ah, c'est vous qui venez le lundi soir.
Oui, c'est Marielle.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes Twi. Ok, bienvenue alors. Et c'est Monique et c'est Gilles. Alors, quand on entend le cœur de la Prajnaparamita, ça veut dire de la compréhension parfaite, pour la première fois, on entend beaucoup le mot vide, n'est-ce pas? Et quand on ne connaît rien de la pratique, ni des enseignements, on peut, et tout le monde se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vide. Tout est vide, mais c'est déprimant. Il n'existe rien. C'est nihiliste. D'ailleurs, ceux qui ont découvert les enseignements du Bouddha, il y a plusieurs années déjà, et c'est dans les livres aussi, avait cette fausse compréhension et rejetait le bouddhisme parce qu'il disait c'est nihiliste. Ils pratiquent le néant et ça ne leur convenait pas du tout. Tout le monde veut croire en quelque chose et quand on nous dit qu'il n'y a rien, on ne veut pas. Ça, c'est une des premières mauvaises compréhensions. En fait, il y a tout. Parce que tout inter est. L'interdépendance fait que tout est relié. Il y a une connexion incroyable dans le monde. On ne le sait pas. Mais on est interrelié avec tout ce qui nous entoure. Et on fait partie de tout ce qui nous entoure. Des éléments, de la terre, du ciel, du soleil, de la pluie, des nuages, des fleurs, des animaux et des personnes, automatiquement. Donc, cette notion de vide signifie tout simplement que c'est vide d'une identité propre. C'est vide, c'est très difficile à dire, c'est vide de quelque chose, c'est vide d'une individualité. Mais c'est plein de tout. Alors je suis interconnectée avec l'univers, je fais partie intégrante de l'univers et je n'existe pas par moi-même. Une fleur n'existe pas par elle-même. Un arbre n'existe pas. L'arbre, le mur, tout dépend de quelque chose pour être. L'animal aussi. Alors déjà, quand nous prenons conscience de cette connexion avec le monde, c'est déjà rassurant. Dans le temps des romantiques, il y avait beaucoup de détresse, de spleen, de mal-être, et que le Bouddha avait déjà détecté la notion de mal-être, c'est la souffrance du monde, la souffrance existe. Il a vu déjà que la souffrance existe. Nous, quand on pense souffrance, on pense guerre, coups, blessures, mais il y a plus que ça, la souffrance du mal de vivre. La souffrance de l'insatisfaction. L'être humain n'est pas content de son sort. Alors il est malheureux. La semaine dernière, dans un journal, il y avait un titre qui m'a frappée. Le bonheur, la recherche du bonheur, ce problème. C'était écrit comme ça. Quand on cherche le bonheur, ça devient un problème. On en fait un problème. Mais ce que le bouddhisme nous apprend, c'est que le bonheur, on ne le suit pas, on ne le poursuit pas. Il est déjà là. Si on accepte ce qu'on est, tel qu'on est, comme on est, si on accepte de vivre le moment présent avec notre respiration, nos deux pieds, nos deux bras, un micro qui nous empêche de bouger, l'instant présent, c'est je suis juste là maintenant. Je ne pense pas que dimanche 5 mai, magnifique dehors. J'y pense pas. Excusez-moi. J'y pense pas, j'y pense plus. Et je suis juste présente dans ce que je suis en train de faire maintenant. Et je ne suis pas perturbée par autre chose. Alors donc, mal comprendre le mot vide, okay, peut porter à la dépression. Okay, si on veut qu'il y ait quelque chose. Dans le sutra, on a lu, il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Il y a tout ça. Mais une chose est reliée à une autre chose. Mais tout seul, ça n'existe pas. Quand on joue au casse-tête, quand on fait des puzzles, des casse-têtes, on voit. Moi, j'aime bien jouer au casse-tête, ça me détend beaucoup. Je fais des trucs avec des peintures et des choses. Quand tous les morceaux sont éparpillés, chaque morceau tout seul, parfois je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a à lire, à regarder l'image, parce que c'est flou, c'est pas. Aussitôt que j'arrive à le connecter à un autre morceau et à un autre morceau, ah, je commence à voir un œil, une oreille de la personne ou une peinture de Monet ou de Renoir. Et je découvre et je trouve ça magnifique. C'est très détendant. Donc, pour moi, la question du vide ne se pose plus du tout. C'est quelque chose que j'ai réglé. Ouf, bon. Donc, le bouddhisme n'est pas nihiliste du tout. Au contraire. Maintenant, je ne veux pas les oublier. Il y en a beaucoup derrière moi que je veux dire. Le plaisir des sens. Arita, ça a commencé avec ce sutra. Et il n'était pas le seul. Arita, c'était un jeune moine ou un moine qui venait d'être moine. Et lui, il a compris que le plaisir des sens, bah oui. Le Bouddha n'a pas dit que le plaisir des sens nuit à notre pratique. Les autres moines plus avancés ont dit « Comment ? Mais tu es en train de mécomprendre les enseignements. » Le Bouddha dit au contraire. Le plaisir des... Alors, on comprend mal. Et parfois, on comprend ce qu'on a envie de comprendre aussi, des choses qui nous arrangent. Personne ne veut s'entendre dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir dans la vie. Mais il faut faire attention. L'enseignement du Bouddha... La base de l'enseignement du Bouddha, c'est la voie du milieu. Le Bouddha lui-même, avant de devenir Bouddha, Bouddha ça veut dire éveillé. Quand on... Avant que moi... Je vous parle de moi encore, parce que c'est moi... Quand je, un Bouddha, pour moi, c'était une statue comme ça, et c'était... C'était plus la notion de statue imposante, tout ça. J'avais aucune notion de qu'est-ce que ça voulait dire. Par la suite, j'ai lu les livres, hein, et j'ai compris que le mot Bouddha veut dire tout simplement éveillé. Bouddha, body, éveil. Comme il a atteint l'éveil... Merci. Les enfants ont dit, est-ce qu'on peut t'appeler Bouddha parce que tu es éveillé? Oui, d'accord, alors il est devenu le Bouddha. Maintenant, toute personne peut devenir un Bouddha. Et on n'a pas besoin de mourir pour devenir un Bouddha, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Disons que je suis là, je regarde le ciel et je regarde les feuilles, petites feuilles vertes, un vert tendre. Et le printemps, c'est tellement magnifique. Et que je vois, j'arrive à comprendre que quand c'était l'automne, elles étaient déjà là, ces feuilles vertes. Il faut s'approcher de l'arbre pour le voir. Les bourgeons sont déjà là. En fait, ce sont les petites feuilles vertes qui poussent les vieilles. Elles veulent, ben c'est comme les dents de lait. La dent de lait d'un enfant tombe parce que la dent permanente est en train de sortir, est en train de pousser. Alors, elle la pousse et la dent de lait tombe. Mais on ne la voit pas, la dent permanente. Elle est en dessous, elle est cachée. La même chose avec les arbres. Les feuilles mortes, on dit, oh, elles s'en vont, elles sont mortes, l'arbre est nu, c'est la désolation. Parce que c'est comme ça qu'on voit, c'est faux. Au contraire, il faut voir déjà... Plus loin, il faut voir en profondeur, il faut voir que la petite feuille verte, elle est déjà là, dans un état latent, et qu'elle attend juste la bonne condition pour se manifester. Et la bonne condition, c'est la nature de la vie, c'est le cycle des saisons. Et quand on comprend les saisons, on n'a plus peur, on n'est plus déprimé en hiver. n'est pas parce que la neige recouvre tout que tout est mort. Au contraire, depuis que j'ai un petit jardin, j'ai vu que tout sous la neige était vert. Quand j'enlève la neige, il m'arrive de sortir au mois de février pour voir. Ah ben, c'est juste là, c'est juste caché, tout simplement. Alors c'est fini, je suis rassurée. Donc il y a beaucoup de choses qui me rassurent avec la découverte de la réalité de la vie. Donc le bonheur, il est possible maintenant. La joie est possible tout de suite quand on apprécie toutes ces choses, quand on sait apprécier le moment du moment. Le Bouddha, avant de devenir Bouddha, a été dans la forêt et il a tout essayé pour trouver la... Il ne disait pas qu'il veut chercher l'éveil, ce n'était pas une expression qu'il utilisait, c'était surtout comprendre. Il voulait comprendre pourquoi il y avait tant de souffrance. Il voulait comprendre le principe même, c'était quoi. Et il a vu plusieurs maîtres, mais c'était très bien, mais non, ce n'était pas satisfaisant pour lui. Alors il a été s'asseoir et il a dit, je vais essayer l'ascétisme. Alors, vous savez, comme tous les yogis à l'époque, ils essayent. Ils se laissent pousser les cheveux, ils ne mangent pas, ils s'assoient sur des clous, toutes sortes de choses pour vaincre, pour anéantir le corps. Parce qu'ils pensent que c'est par le corps que viennent toutes les souffrances. J'ai un corps dont je souffre, un petit peu. Et donc il est devenu ascète, maigre, 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 alors que c'était un beau jeune homme. Vous avez déjà vu certainement des films. Et dans les livres, on dit qu'il était très beau. Un jeune prince, très beau. Jusqu'au moment où... Et j'adore raconter ça, parce que quand je l'ai lu, ça m'avait vraiment... C'était un petit éveil aussi. Il était assis, maigre, affamé. Et un rayon de soleil a effleuré son épaule. Et la sensation était tellement délicieuse. Ça l'a ébranlé et il a dit, c'est pas comme ça que je vais atteindre l'éveil, que je vais atteindre la grande compréhension. C'est pas en me mortifiant et en annihilant mon corps et en maltraitant mon corps de cette façon. Alors il s'est levé, il a été se baigner dans la rivière et il était très heureux. Donc son enseignement après, c'était ni trop, ni trop peu. Parce que quand il était prince, son père le gâtait énormément et lui donnait toutes sortes de choses qu'une personne pourrait vouloir désirer. Il était dans la luxure, il était entouré de femmes, parce que son père avait peur que son fils quitte la maison parce qu'il y avait une prédiction qu'il serait un jour ou moine ou un grand souverain. Alors, pour ne pas qu'il quitte le palais, il le gâtait, il le mettait dans un cocon. Et ça, c'était la luxure. Et ça, c'était les plaisirs des sens exagérés. Ça, c'était le mauvais sens des plaisirs des sens. Ce n'était pas ce qui convenait au Bouddha. Et quand il a essayé l'ascétisme qui était l'opposé, il s'est dit, non, ça non plus, c'est pas comme ça qu'on peut être heureux et qu'on peut comprendre la souffrance et qu'on peut mener une belle vie et une bonne vie. Donc c'est la voie du milieu, ni trop, ni trop peu. Et on dit dans les histoires que le Bouddha savait apprécier les bonnes choses. Quand il était sur le pic du Vautour et qu'il admirait le coucher du soleil ou qu'il voyait les belles villes, il disait à Ananda, qui était son disciple, « Regarde comme c'est beau !» Quand il était invité à manger chez le roi ou n'importe où, il appréciait la bonne nourriture. C'est bon. Donc, oui, on apprécie la joie. Oui, on apprécie les choses. Les plaisirs des sens, oui, tant qu'on n'exagère pas. Et tant que ça ne nous perd pas. les moines, ou ce moine, Arita, n'avait pas compris cela. Il pensait que, bah oui, on peut être moine et s'abandonner au plaisir des sens. Donc c'est pour ça que le Bouddha dit, faites attention, ne méprenez pas ce que je dis. Et surtout, à la fin du discours, on lit, je n'ai rien dit, le Bouddha a dit. Quelqu'un lui avait posé une question, il a dit, en 45 ans, je n'ai rien dit. Il avait peur, il ne voulait pas que les gens comprennent, mal comprennent ses enseignements. Quelqu'un, à propos de Dieu, justement, ça se rapproche un petit peu. Un autre, quelqu'un est venu lui demander, est-ce que le soi existe? Le Bouddha ne répond pas. Est-ce que le non-soi existe? Le Bouddha ne répond pas. Et le monsieur en question est parti. Ananda, qui est son disciple, qui est toujours à côté de lui, lui a dit, mais maître, vous nous dites toujours que il n'y a pas de soi. Et il dit, oui, mais si je lui avais donné une réponse, il en aurait fait une théorie, un concept. Et ce que j'enseigne, c'est pour qu'on se libère de la souffrance, qu'on se libère de nos fausses perceptions, qu'on se libère de nos fausses croyances. C'est pour nous libérer de la souffrance que j'enseigne. C'est pas pour qu'on en fasse des théories et pour qu'on en parle et pour qu'on en s'en vante et pour qu'on en discute et pour qu'on débatte sur ça. C'est ce qu'on a vu ce matin. Donc, ça, c'était un autre exemple de la mauvaise compréhension. Un autre sutra qui nous parle de la mauvaise compréhension des enseignements. C'est le sutra de la meilleure façon de vivre seul. C'est un sutra qui dit qu'il y avait un vieux moine qui aimait pratiquer seul. Il aimait aller faire demander l'aumône seul. Il aimait aller dans la forêt seul. Il voulait tout faire tout seul. Et les autres moines lui disaient, mais pourquoi il veut toujours vivre tout seul, lui? Et ils ont été voir le Bouddha. En lui disant, il y a le vieux moine, Théra, qui fait tout seul. Il ne veut rien faire avec nous. Alors, le moine l'a convoqué. Il lui a demandé, est-ce que c'est vrai que tu aimes faire ta méditation seul, que tu aimes faire l'aumône seul, que tu aimes faire ta marche méditative seul? Il dit, oui, c'est vrai. Le Bouddha n'a rien dit, mais il a dit, je vais vous dire un poème. Il va vous montrer la meilleure façon de vivre seul. Parce qu'il y a un sutra qui s'appelle le sutra de la meilleure façon de vivre seul. Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit la meilleure façon de vivre seul? Comment est-ce qu'on peut vivre? Comment? Est-ce qu'il y a une bonne façon pour vivre seul? Alors il dit... sursaut de chaque fois, excusez-moi. Alors le sutra dit, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. La mort peut arriver n'importe quand. Apprendre à vivre le moment présent sans les préoccupations du passé. Alors, il compare tout cela à des compagnons. Des compagnons, les regrets, les remords, les souvenirs, tout ce qui encombre notre esprit, qui peut nous préoccuper, sont des compagnons qui viennent nous entourer. Okay? Alors, les compagnons du passé ou les compagnons du futur. Est-ce que je vais réussir ça? Qui deviennent des angoisses, des inquiétudes. Ça peut être des joies aussi. Ce sont des compagnons. Alors, quand on vit dans le présent, on n'a pas de compagnons. On est seul. On n'est pas entouré. Et on est vraiment heureux parce qu'on est libre. Est-ce que vous réussissez à avoir cette image de la liberté de l'instant présent? On va juste le faire une seconde. Fermez les yeux, on va respirer et on va dire, on va se dire, c'est ça l'instant présent. C'est une inspiration, une expiration. Une inspiration, une expiration. La première respiration, c'était l'instant présent et il est déjà parti. Et dans ce moment-là où je suis pleinement investie dans une inspiration, une expiration complète, je suis libérée. Donc on peut être libre tout de suite. On va le faire 5 fois. Je ne vais pas parler. Est-ce que des pensées sont venues? Est-ce que vous avez réussi à ne penser à rien? C'est difficile, n'est-ce pas? 5 respirations. 5 respirations, je les ai fait, je les ai comptées. Et la pensée de « je suis en train de compter » m'est venue. Donc, même là-dedans, on n'est pas nu, il y a quelque chose. Et bien c'est ça la pratique de la pleine conscience. C'est exactement ça, c'est la pratique d'apprendre à vivre l'instant présent. C'est difficile à dire et à faire. Vivre l'instant présent. Rester maintenant. Être là maintenant. Ne pas être ailleurs, ne pas être avant. Ne pas être après, être juste là. Cette pratique, on l'emporte avec nous. On la pratique ici en journée, avec tous les amis, en méditation assise. On apprend à s'arrêter et à être juste assis, comme Monique maintenant, qui est très tranquille, paisible. On est juste là. Et on n'a rien d'autre à faire. Nulle part où aller et rien à faire. On va la pratiquer en marchant tout à l'heure. On va la pratiquer en mangeant. On va manger juste pour manger, pour apprécier ce qu'on va manger, pour voir la connexion de la nourriture avec tout ce qui nous entoure. Je vous parle, vous m'entendez. C'est une pratique. Une pratique de l'écoute présente. Si pendant que je vous parle, vous pensez à ce que vous avez fait hier, ou vous pensez à ce que vous allez faire ce soir, ou vous pensez que vous avez faim, que vous avez déjà envie de manger, juste tout ça, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. C'est pas une critique ou une attaque. C'est juste, c'est naturel en nous, parce que nous sommes humains, parce que nous avons un esprit. Mais l'esprit et le corps ne sont pas séparés. La pratique de la pleine conscience nous aide à unifier ça. Ça veut dire que où est la séparation entre le corps et l'esprit? Où est la séparation entre moi et l'univers? Où est la séparation entre moi et le soleil? Le soleil me donne sa chaleur, il m'éclaire. Il me fait vivre. Il y a de l'eau en moi. Il n'y a pas de séparation. Je suis dedans. Je suis ça. Je ne suis peut-être pas à l'ordre là, mais ça va, ça fait rien. Il y a une phrase là-bas qui dit « je pense, donc je ne suis pas ». Thich Nhat Hanh qui donne cet exemple. Nous, les Occidentaux, on a été élevés à l'école et on nous a parlé de Descartes. Je pense donc je suis. Et en philo, c'était ça. Et je me rappelle, j'avais eu une dissertation sur ça. Je pense donc je suis, commenté. Alors, c'était, ah, on était fiers, ouais, je pense, donc je suis. Eh bien, Thich Nhat Hanh nous dit, tu penses, donc tu n'es pas. Tu penses, donc tu n'es pas là. Tu es perdu dans tes pensées, tu es en train de penser. Et c'est comme encore l'image du cavalier qui court et qui est emporté par son cheval et un piéton lui dit, mais où vas-tu comme ça, cours si vite? Je ne sais pas, demande au cheval. Alors l'esprit, c'est notre cheval, il nous emporte. Et quand on ne vit pas en pleine conscience, on est emporté par notre esprit. Maintenant, attention, on peut mal comprendre les choses, encore parce que je ne suis pas une sommité, hein, mais juste maintenant de vous dire on est emporté par l'esprit, vous pouvez penser oh, que l'esprit est mauvais. L'esprit est néfaste. Mais non. Alors, je reconnais que l'esprit m'emporte. Je reconnais que je suis emportée par mes pensées. Mais je vais reconnaître aussi que corps et esprit sont une seule chose, c'est ensemble, et que je dois l'accepter. Je pense et je sais que je pense. Je suis confus et je sais que je suis confus. Je suis distrait, je sais que je suis distrait. J'ai du désir, je sais que j'ai du désir. C'est la pleine conscience, c'est de reconnaître ce qui va bien et ce qui va mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Ne rien faire.
Nulle part où aller et rien à faire. Voilà. Alors, maintenant, le non-soi. Quand on parle de il n'y a pas de soi, ça peut être horrible. On dit comment, mais je suis quelqu'un. Comment il n'y a pas de soi? Il n'y a pas de soi unique. Je ne suis pas Lily unique. Je suis Lily née de ma mère et de mon père, buvant l'eau d'une certaine rivière ou d'une certaine fontaine qui a déjà existé. C'est comme, je suis liée à tout ce qui m'entoure. Je n'ai pas un soi individuel. Et ça, quand on dit c'est la pratique du non-soi, c'est dans un livre de Thich Nhat Hanh qui parle, il n'y a ni mort, ni peur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mort? Il n'y a pas de mort, ça veut dire on ne disparaît pas à jamais. Voilà une autre idée. Voilà quelque chose d'autre qu'on pourrait mal comprendre. On est parce que maman est enceinte et paf, je nais. Saint-Esprit, non. La notion de Dieu dont Jenny veut que je parle. Je ne sais pas si j'ai tellement envie de parler. Mais c'est ça. On a été élevé, moi aussi, avec l'idée qu'il y a un Dieu créateur. Que quelqu'un qu'on appelle Dieu a créé l'univers. Bon. Et bien sûr, on se représente Dieu comme une personne. Un vieillard, une barbe blanche, beaux cheveux blancs. Dieu, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Fais que je puisse réussir ça. Fais que je réussisse à mon examen. C'est comme si c'est quelqu'un. Et quand on meurt, on s'en va. On va dans la terre et on n'existe plus. Alors ça, c'est ce que nous avons appris. Maintenant, les enseignements bouddhistes sont plus rassurants. En tout cas, moi, personnellement, ça, j'aime bien. J'aime bien savoir que quand je suis née le 16 août, je ne suis pas née exactement le 16 août. D'abord, pendant 9 mois, j'étais dans le ventre de maman. Donc, je suis née 16 août, plus 9 mois. Mais avant ces 9 mois, j'étais quoi? Un ovule? J'étais une petite cellule? Et d'où? Elle est tombée du ciel? Non. Il suffit, encore une fois, de regarder la terre et juste de se pencher et de voir la feuille d'automne. Moi, je vous dis, depuis que j'ai un jardin, ça m'a tellement fait du bien. Quand on est en ville, c'est un peu plus difficile. Et comme j'ai eu à m'occuper de mon jardin et de ratisser les feuilles, et donc le gazon, et de faire toutes ces choses-là. Et surtout en novembre, je ne sais pas si vous avez un jardin, si vous avez déjà fait ça, mais en novembre, il fait froid déjà. Et c'est comme si on couvre les rosiers, c'est comme... J'avais des bonsaïs, je les ai encore, mais ils sont à la maison maintenant. Mais avant, les bonsaïs, je les mettais sous terre pour qu'ils passent l'hiver. Alors, le pot et la plante. Donc, tout le pot et la racine étaient enterrés. Et je couvrais ça de tout plein de feuilles mortes. Et après, je mettais un cône de rosier dessus. Et avec le temps, j'ai vu que la neige faisait une couverture naturelle. Et j'avais même plus besoin de mettre des cônes de rosier parce qu'avec la neige et les feuilles... Mais quand j'étais penchée sur la terre, et que j'enterrais le bonsaï, vraiment je voyais comment c'était juste un cycle, et je voyais que l'hiver c'était seulement dans notre tête que les choses finissaient, c'est tout simplement que j'étais là, que je les mettais là, ils dormaient, et puis au printemps, quand je découvrais, il y avait des petites feuilles vertes, ils étaient vivants. Ça m'a appris, ça m'a fait voir que non, les choses ne meurent pas, les choses sont là, elles sont seulement cachées, on ne les voit pas. Quand les conditions se manifestent, quand les conditions sont là, elles sont bien, il y a des manifestations. C'est la même chose pour la vie. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je voyais la terre, je voyais l'eau, je voyais que cette poussière de terre, je me disais, comment cette eau-là emporte cette terre, et où elle va, et quand ça s'évapore, l'eau qui s'évapore emporte avec elle des petites particules. Si on est physicien, c'est très facile à voir. L'eau n'est pas pure, il y a déjà un peu de quelque chose de cette terre-là qui va s'évaporer, qui va monter dans le nuage et qui va voyager, qui va aller loin. C'est une image classique qu'on répète, qu'on dit, qu'on aborde très souvent. Et c'est ça, c'est l'explication. Et puis, que ça retombe. Donc, un peu de cette feuille morte est retombée, je ne sais pas où, ailleurs. Maman a bu cette eau. Papa a bu cette eau. Ça s'est mis ensemble, il y a une connexion. Moi je suis dedans. J'étais dans le nuage, j'étais dans la feuille, j'étais dans le bonsaï. Je ne sais pas d'où je viens peut-être de Chine, je viens du Japon, je viens d'Inde, je ne sais pas. Alors ça c'est la naissance, on ne sait pas d'où exactement on vient. Où on se trouvait avant d'être dans le corps de nos parents. Quand on meurt, c'est la même chose. La mort nous fait mal. La naissance nous fait beaucoup de bien. On aime voir quelqu'un naître et on n'aime pas le voir mourir. Mais maintenant, quand les arbres perdent leurs feuilles en automne, je ne suis pas triste du tout. Je sais que c'est juste un instant. Je sais que ça va durer quelques mois, ça va revenir. Je le sais, je le vois, la nature est fidèle, ça revient tout le temps. quand on meurt, quand une personne meurt, son corps se désagrège. On le met dans une boîte, mais si on ne le mettait pas dans une boîte, et même dans une boîte, la peau, tout, tout ce qui est matériel, ça s'en va. Il reste des os parce que c'est dur. Les os restent longtemps, c'est comme ça qu'on fait de grandes découvertes, grâce aux os. Mais si on allait dans la terre, ça serait plus rapide peut-être, le compost. C'est ça. Maintenant, un peu de ce corps humain qui vient de ne plus vivre. Disons qu'une fourmi prend un petit peu de... chemine avec, l'emporte quelque part, le dépose là. Et ça rentre dans l'eau, c'est emporté dans la rivière. C'est... où est-ce qu'elle va cette personne? Je ne sais pas. Même chose que la naissance. Les pensées de cette personne se disent, où est-ce qu'elles vont? C'est ça la conscience. Thich Nhat Hanh, moi je ne l'ai pas inventé, je ne le savais pas avant. Il nous compare à une bougie. Quand on allume, il y a une bougie, il y a des allumettes. On craque une allumette, et on allume la bougie. Donc il y a une condition pour qu'il y ait une flamme. Il pose la question, est-ce que cette flamme existait déjà avant? Alors tout le monde commence à répondre, oui c'est déjà dans l'allumette, oui c'est déjà... Ben, il faut qu'il y ait des conditions. Grâce à l'allumette, il va y avoir une flamme. Donc je provoque cette condition-là et la naissance va se faire. Il va y avoir une manifestation. Quelque chose va se manifester, une flamme va se manifester. Maintenant, quand la flamme s'éteint, ah, il n'y a plus de flamme. Mais où est-ce qu'elle est partie, cette flamme? Quand on allume une bougie, il y a de la fumée. Mais nos bougies de maintenant sont très belles et il n'y a pas de fumée noire. Mais quand ça ne va pas bien, on voit la fumée noire, alors c'est facile à voir. Mais quand ce n'est pas noir, on ne le voit pas. Quand on brûle de l'encens, mais où est-ce qu'il va cet encens? Parti? Mort? Non, il va dans l'air. On le respire, mais c'est tellement grand l'air qu'on ne respire plus l'encens. Donc je ne sais pas si c'est cet encens que j'ai respiré ou si c'est quelque chose d'autre. La volute et dans l'air, quelque part. Nos pensées, nos actes, nos actions et nos paroles sont transportées. Quand je dis quelque chose, est-ce que vous avez vos parents? Vous avez vos parents? Vos parents sont... Non. Mais vous vous rappelez de leurs paroles? Vous vous rappelez de ce qu'ils vous ont dit? S'ils sont vivants encore, vous vous rappelez de ce qu'ils vous disent. S'ils sont... Moi, je n'oublie pas. Hier, ma sœur m'a appelée. Non. Elle m'envoie un email. Allume 107. Elle est à Miami maintenant. Elle me dit, allume Radio-Canada 100.7. Vite, vite, vite. FM. Elle m'écrit vite, vite, vite. J'allume et j'entends. Ah, le petit vin blanc. Vous connaissez? La, 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 la. Ça, c'est papa qui a adoré danser ça et chanter ça. Et chaque fois qu'on mettait ça, la valse musette, il nous prenait et, eh ben, je lui ai répondu, je danse avec papa. Papa, il n'est pas là, il est mort. Et je me suis rappelée de mon père quand il m'attrapait pour danser et toujours il pressait ses mains sur mon dos. Il nous tenait bien solidement comme ça. Et il se mettait à danser avec moi. Et je lui ai dit, je suis en train de danser avec papa. Donc, il est là. Les actes, les paroles, les pensées. Je suis papa. Donc, je continue sa pensée. Il est en moi. quand je vois mes mains, je vois que j'ai le même doigt que lui. Ce doigt-là, exactement le même. Il avait quelque chose ici qui sortait. J'ai la même chose que lui. Alors, c'est ça, le non-soi, c'est ça. On n'a pas de soi. Je suis papa, je suis maman, je suis vous. Même si vous n'avez pas tellement envie que je sois vous, mais je suis vous. On est tous pareils. On dit ni pareil, ni différent. Et parce qu'on intérêt, je suis un peu de vous. Différent parce que je change. Parce que la feuille d'automne devient rouge, après verte, après jaune, après violet, après marron. La chenille, la chrysalide, oh, tellement de couleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est différente de l'autre papillon? Elle n'est pas différente, mais elle n'est pas la même non plus. Alors c'est juste de voir. Parce que c'est la vie, et finalement, si on pense à la vie, si on voit de loin que la vie, la terre, l'univers, soleil, lune, étoile, eau, océan, être humain, animaux, plantes, tout ça ensemble, on voit comment ça interagit. Et on voit que rien n'existe tout seul. Je ne peux pas prendre une plante, la sortir de là et dire « Ah, elle est née séparément. » Non. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Chaque année, je vais à la plage. On fait du camping au bord de la mer. Et je ne sais pas où ils sont les coquillages. Je crois qu'on a... En tout cas, et j'aime y aller très tôt le matin. Et quand la mer se retire, quand c'est la marée basse, il y a plein de coquillages sur le rivage. Plein. Je dirais des millions. Et vous savez quoi? Tous pareils. Quand je me penche sur ces coquillages, ils ne sont pas tous pareils. Mais ils sont presque tous pareils. Ils ont la même forme et tout. Je m'assois et je ne sais pas préméditer tout ça. Et je commence à les regarder et à jouer avec. Et un peu d'eau vient, un peu de vagues viennent. Et puis je les sépare et un jour je me suis amusée. Comme je suis seule sur la plage à 6h du matin, personne ne me dérange. Je me suis amusée à regarder ces coquillages et à repenser aux enseignements. Et à voir, je dis, tous ces coquillages, ils sont tous ensemble, tous pareils, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils sont nés de la même source. Comme... Alors j'ai commencé à, j'en ai pris un et je me suis dit, lequel serait moi? Vous imaginez tout plein de coquillages? Et juste là, je me suis vue en train d'avoir de faire de la discrimination. Comme le plus beau, ou celui qui est cassé, ou je suis moi, le plus gros. Alors, comme j'étais honnête, j'en ai pris un qui n'était pas parfait. Et je l'ai mis en dehors. Et après, je me suis dit, et où serait mon mari là-dedans? Alors, je commençais à choisir un coquillage qui ressemblerait à mon mari. Alors, vous pouvez imaginer tout ce qui m'est passé par la tête. Je vous jure, faites-le, c'est formidable. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Je commençais à choisir. J'en ai pris un. Et après, j'ai fait ça, la même chose. Et tout ça, je n'avais pas prévu tout ça. Et j'ai fait la même chose, maman, papa, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Et alors, ça s'accumulait. Tous les coquillages. Et au fur et à mesure que je les mettais à côté de moi, je voyais que il n'y avait plus de place pour être à côté de moi. Donc, il y en a qui étaient plus loin. Et je disais, qui je veux mettre plus près? Maman? Samy? Marie? Ou mon enfant? Ou mes enfants? Parce que, ok, on ne peut pas se mettre les uns sur les autres, il faut de l'espace. Alors, les cousins étaient plus loin, et puis les amis. Mais parfois, vous pouvez avoir un ami qui est juste là à côté, plus près que votre mari, plus près que votre mère. Quoi. C'est possible. Jouer avec ça, c'est fantastique. Et là, j'ai vu qu'est-ce que ça voulait dire, le non-soi. Et je voyais que c'était l'interdépendance. Je voyais comment on est tous reliés. Maintenant, je pensais, je me disais, la femme qui est amoureuse, par exemple, elle choisit. Où il est son amoureux là-dedans? Quel coquillage va être son amoureux? Elle en prend un. Et s'il n'est pas là, tous ces millions de coquillages n'ont plus d'importance. Parce que son amoureux n'est pas là. Alors tous les autres coquillages ne sont pas importants. Et c'est ça la souffrance. Un seul être me manque. Tout est dépeuplé. Alors quoi? Tous ces coquillages à côté de moi n'ont pas d'importance. C'est fou. Ça, ce sont nos conceptions. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Étroite. Il faut que lui soit là, que lui soit là, que celui-là soit à cette place. Qu'est-ce qu'il y a si l'autre se faufile et arrive là? Et ça, c'est la vie, et ça, c'est les relations. Et ça. Maintenant, nous, notre pratique de pleine conscience, c'est là qu'elle intervient. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment est-ce que je regarde tout ça? Qui je mets avant? Où je mets ma priorité? Est-ce que je suis complètement déconnectée? J'ai aucune relation, j'ai aucun rapport avec ces gens-là. Le non-soi, c'est ça le non-soi. Je n'ai pas de soi. Je ne suis pas, mais je suis. Le non-soi, Thich Nhat Hanh dit que c'est une idée refuge. Parce que c'est... Hein? Non, ça va. Parce que je... Vous allez mal m'entendre. Non, ça va. Une idée refuge. Dans la vie, on veut s'accrocher à quelque chose. N'est-ce pas? On veut être rassuré par quelque chose. L'idée du Dieu. D'un Dieu. Vous savez, vous me demanderez maintenant, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, parce que je vois Dieu d'une autre façon. Je ne vois pas Dieu comme un homme, un être, une femme qui a créé ça de rien. Tout l'univers, tout ce qui se fait, toute cette mouvance, toute cette harmonie qui est entre les choses, c'est Dieu. Et ça me mène au nirvana. Le nirvana, c'est... Ah, on en a entendu parler du nirvana. On dit que c'est le bonheur total. C'est... Les gens qui ont lu Baudelaire, ils disent les paradis artificiels parce qu'ils prenaient du hashish ou de la drogue, n'importe quoi. Et... Même les Beatles, ils ont tous essayé tout ça. Les paradis artificiels, des substances qui les mettaient dans un état de bonheur illusoire, éphémère. Le nirvana. Pour le Bouddha, le nirvana, c'est quand on réussit, quand on est capable de se débarrasser des notions ancrées en nous, des idées inculquées. Regardez, ça va très loin. Les nazis qui inculquaient les notions des Aryens. Il faut qu'ils soient blonds, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils aient les yeux bleus. Si, ça c'est un concept, ça c'est une idée qui peut créer la guerre, qui peut créer la destruction, qui peut mener très loin. Alors juste à cause d'une idée, on détruit tout. Parce qu'on a des idées ancrées. Notre jeu serait de voir, ou notre pratique serait de voir quelles sont les idées qu'on m'a inculquées et dont je ne me suis pas débarrassée. prend une longue méditation. Vous savez, les idées de discrimination, de racisme, tout ça, les idées préconçues, c'est horrible, je ne veux même pas les prononcer. Mais il y en a tout plein. Lui, parce qu'il est ça, il est comme ça. Ah ben, tous ces gens-là sont comme ça. Ou toute cette race est comme ça. Tout ça. Oh, c'est affreux. Alors, se débarrasser des notions et essayer de voir la réalité telle qu'elle est. Comme ne plus voir. J'ai les cheveux comme ça. Moi, dès que je dis, par exemple, que je viens du Maroc, je vois les idées tout de suite. On m'associe à... Alors que je ne suis pas du tout généralisée. On généralise. Alors le nirvana, c'est de se débarrasser de ces notions-là et des faux concepts. C'est de débarrasser de l'idée que le vide, c'est le néant. Se débarrasser de l'idée que vivre seul, ça veut dire aller quelque part dans la forêt et vivre seul. Se débarrasser de l'idée que, oui, il faut abonder dans les plaisirs des sens, alors que le bonheur et la joie aussi sont des sens et sont des plaisirs, et c'est le bonheur. Et je peux... J'ai faim, oui, et j'ai hâte de prendre mon café tout à l'heure. C'est un plaisir, je suis heureuse avec ce plaisir-là. J'accepte. À nous à faire la part des choses. Alors, je peux être dans le nirvana maintenant, tout de suite, en étant libéré, en étant ouvert, en étant tolérant, en étant aimant et en sachant que je ne vais plus comparer et que je ne veux plus juger et que je ne vais plus m'en faire. Il y a une chanson qui dit... Pourquoi est-ce que je le prendrais à cœur ? Pourquoi est-ce que je le prendrais à cœur ? Pourquoi est-ce que je prends tout à cœur ? Pourquoi ? Comme, c'est ça. Alors, c'est l'histoire qui... Ben justement, je crois que c'était John... Non, c'est pas John Kabat-Zinn. C'est quelqu'un comme lui. Il donnait une conférence et puis un étudiant lui a dit « Oh, vous savez pas ce que vous dites ? Chaque fois vous dites ça, nanana, devant tout le monde, c'est mis à l'engueuler. » Il n'a rien dit, le professeur. Quand il est parti, un autre étudiant est venu, lui a dit, « Comment vous permettez que l'étudiant vous insulte comme ça et vous attaque comme ça ?» Alors il dit, « Oh !» Il dit, « Vous ne prenez pas mal ?» Il dit, oh, « Oh oui, je l'ai pris vraiment au sérieux, mais je ne l'ai pas pris personnellement. » Donc c'est ça, on prend les choses au sérieux, mais on ne les prend pas personnellement. Et c'est ça toute la différence. C'est parce qu'on prend tout personnel. On rapporte tout à soi. Soi. Et quoi si ça ne me concerne pas ? Et quoi si j'ouvrais un peu ? C'est l'image du verre d'eau où on met un petit peu de sel. Si je mets du sel, imaginez que je mette une cuillère de sel dans cette petite tasse. Ah, ça sera insupportable. Ça sera comme ces produits horribles qu'on doit prendre avant une colonoscopie. Dégueulasse. Moi, je vous jure. Il paraît qu'ils ont changé ça maintenant. Mais si je mets la même quantité de sel dans la bouteille, ça va être mieux. Et dans une grande bouteille, ça va être mieux. Et dans une rivière, on la goûtera même plus. Alors, c'est notre cœur. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on apprend à vivre en pleine conscience. C'est pour ça qu'on apprend à regarder. Maintenant, même si je ne suis pas avec vous, même si vous n'êtes pas avec moi, une fois que vous partirez d'ici, une fois que je vais partir, je dois pratiquer, non ? Je continue à pratiquer. Alors, vous n'êtes qu'un prétexte, une sangha, ça me supporte. Mais une fois qu'on est seul, face à face avec soi-même, on continue la pratique. Maintenant, se demander, qu'est-ce que je veux pratiquer ? Dans quoi je veux m'améliorer ? Il y a beaucoup de choses qu'on veut améliorer. Peut-être qu'il y en a trop. Vous savez quoi ? On a une feuille où il y a 51 formations mentales. Et Thay, Thich Nhat Hanh, en a ajouté quelques-unes, donc ça fait à peu près 58 et tout ça. Je me suis amusée à... D'abord, j'ai imprimé la feuille et je l'ai mise à côté de mon lit. Et après, j'ai dit, non, je vais séparer, je vais mettre les bonnes formations. Ok, vous savez qu'une formation mentale, c'est quelque chose qui est formé par l'esprit. C'est le mental qui forme. Quoi ? L'idée de la peur, c'est une formation mentale. La joie, la fierté, l'attention, ce sont des formations de l'esprit. Donc, on peut les déformer. Si elles ne sont pas bien, si elles ne nous conviennent pas, ça peut se déformer. Comment ? Grâce à notre pratique de pleine conscience, grâce à notre vision, à l'étude de nous-mêmes. Alors, j'ai séparé les bonnes, j'ai fait deux colonnes, les bonnes et les pas bonnes, les moins bonnes. Je me suis dit, la jalousie de ce côté, l'amour est là, parce qu'elles sont dénommées comme ça. Et j'ai commencé à les compter. Il y a à peu près 28 bonnes et un peu plus, parce que s'il y en a 51, 56, 57, comme ça, c'est presque le même nombre. Autant de pas bonnes de l'autre côté. Et je me suis amusée à regarder. Ok, lesquelles, les bonnes que j'aimerais avoir pour moi, l'amour, oui, l'attention, tout ça. Oui, j'aimerais beaucoup la compassion, la joie, oh, que j'aimerais être tout le temps joyeuse. Et j'ai commencé à regarder les moins bonnes, la jalousie. Est-ce que tu es jalouse ? D'abord, ma réaction tout de suite a dit non, je suis pas jalouse. Et je commence à regarder. Est-ce que je suis jalouse de quelque chose, que j'ai envie de quelque chose? Ok, alors je me suis dit, ok, oui, un petit peu, oui. Je commençais à les passer toutes. Figurez-vous que je les ai toutes. Toutes les formations mentales sont en nous. Amusez-vous. Je ne sais pas, j'ai pas une... Peut-être qu'on a une feuille. On doit avoir une feuille. Ça, vous voulez donner tout à l'heure. Juste à regarder de quoi on veut se débarrasser. Qu'est-ce qu'on veut cultiver? Qu'est-ce qu'on veut arroser? Je ne vais pas arroser la jalousie, je ne vais pas arroser la peur, l'anxiété, la dépression, la culpabilité, l'orgueil. Non, c'est pas ça. Je vais pas. Pourquoi on vient avec une sangha? Pour arroser les bonnes choses, pas pour arroser les... Si une personne est là à côté de nous et qui est tout le temps en train de nous pousser à la violence ou tout ça, c'est pas cette personne qu'on va vouloir fréquenter. Et c'est ça la pratique de la pleine conscience. Ceux qui se mettent dans cette pratique, c'est dans ce but-là, c'est pour améliorer la vie et l'arranger. Donc, c'est ça notre conscience. Et notre conscience, c'est un jardin, comme dit Thay, comme dit le Bouddha. Toutes les formations sont là, elles sont toutes là. Et il ne faut pas se faire d'illusions, on les a toutes. Maintenant, il y en a qui dorment, il y en a qui sont plus visibles, il y en a qui sont moins visibles. Je passe pas mon temps à taper sur la tête de quelqu'un, hein, mais si quelqu'un m'enrage, comme, vous savez quoi, ce matin en venant, rien qu'en y pensant, j'ai envie de dire un gros mot. On était seuls sur l'autoroute, je vous jure. Hein, seuls, la transcanadienne. La vitesse permise, c'est 100. Quand j'arrive à 120, je sais que je vais trop vite. Donc je m'arrange toujours pour ne pas que mon pied atteigne le 120. Et comment je fais ça? Je recule mon siège de façon à ce que juste la pointe de mon pied touche l'accélérateur. Ainsi, j'aurai moins de... Ça sera moins accessible pour moi. Et tout ça, c'est des jeux de pleine conscience. Donc je roulais bien, j'étais à 110 à peu près. J'étais tout à fait réglo, confortable. J'ai envie de dire un gros mot. Un bonhomme qui se met juste derrière moi et commence à me pousser. On était seuls sur l'autoroute, les trois voies, personne. Il voulait aller plus vite et il était juste derrière moi. Regarde le rétroviseur, je dis, mais vraiment, toutes les voies sont libres là, il n'a qu'à aller de l'autre côté. ce qu'il a fait après. Mais j'ai été outrée. Je me suis dit, vraiment, s'il y avait du monde, ok. Mais on est seul, comme si ça charme sur moi. Okay. Donc j'ai vu que, oui, il y a des grains de colère en moi. Oui, il y a toutes ces choses. Donc c'est ça, d'être conscient de soi dans la vie de tous les jours. Alors, comme... Pas la peine d'aller en retraite, pas la peine d'aller dans un monastère, pas la peine d'aller n'importe où. La vie de tous les jours, elle est amplement suffisante pour nous apprendre à nous observer et à regarder comment on marche, comment on mange, comment on parle, comment on écoute, comment on réagit, comment on lave nos chaussettes, comment... n'importe quoi. C'est... Comment on fait le ménage, comment... Alors la pratique de la pleine conscience, c'est le quotidien. Le quotidien. La vaisselle, le plancher, le ménage. La pratique, le travail, l'autobus, la rue, la voiture, changement des pneus, c'est tout ça. Fausse compréhension des enseignements, c'est ça. Et ça nous arrive tout le temps de mal comprendre les choses, pas seulement les enseignements du Bouddha, mais juste lire le journal, on lit quelque chose et on l'interprète. Quelqu'un nous dit quelque chose, on l'interprète. On a une perception. On juge. On compare. Avec ce qu'on sait, ce qu'on a su. Mais heureusement, on a la pratique qui nous apprend à nous débarrasser chaque jour un petit peu de notre carapace qui est ancrée. Tu as été élevé comme ça, on t'a appris ça, on t'a dit ça. C'est ça la pratique de la pleine conscience. Minutes, on peut faire les mouvements ou faire autre chose. On va bouger, on va faire des mouvements de pleine conscience. Ah. C'est lui. Oh, you.